Il est midi. Les murmures de la colère grondent à l'antenne de Prune.
Une violence gratuite, nous disons non. Nous disons non.
L'argent passe avant les droits de l'homme.
Tend l'oreille et emprunte les chemins de la révolte.
Le coup de poing, le coup de tête, le coup de théâtre.
L'idée, c'est pas juste de dire ça va pas, on arrête tout, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Quelles sont les options, vers quoi on va.
La Voix des luttes, l'émission initiatique et révoltée, tout de suite sur Prune 92 FM et prune.net.
Pour ceux qui pensent qu'ils en savent plus et qui vont se rendre compte qu'ils n'en savaient rien.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des luttes, l'émission mensuelle consacrée à l'engagement et au militantisme. Chaque mois, nous accueillerons un ou une invitée qui viendra nous raconter son parcours de lutte, que ce parcours prenne la forme d'un engagement bénévole ou professionnel. Nous recevons aujourd'hui Maxime Hureau, directeur régional de l'association La Cloche. Cette association, créée en 2014, a pour but d'agir contre la grande exclusion via la création de liens sociaux et le changement de regard sur la vie à la rue. Bonjour Maxime.
Bonjour à tous.
Bienvenue et merci.
Merci à vous de m'inviter.
La Voix des luttes, c'est une émission mensuelle réalisée par l'équipe de bénévoles la plus investie et motivée du PAF, composée de 6 membres qui se relaieront à chaque émission. Ainsi, pour cette première édition, c'est moi, Jorja ou Kuka, qui vous accompagnerai tout au long de cette émission initiatique et engagée. À mes côtés, Constance, qui posera ses questions à notre invité du jour, afin d'en connaître un peu plus sur son parcours. Bonjour Constance.
Bonjour Jorja, bonjour tout le monde.
Autour de la table se trouve aussi Roxane, qui nous fournira, dès le début de l'émission, plusieurs définitions indispensables pour notre bonne compréhension des situations dont nous parlerons ensemble aujourd'hui. Bonjour Roxane.
Bonjour Jorja.
Avec nous également Déo Gracias, qui montrera dans sa chronique « Le droit des luttes » que la loi n'est pas seulement un outil d'oppression, mais aussi une arme pour lutter et faire valoir nos droits. La chronique d'aujourd'hui abordera le cadre juridique relatif aux personnes sans abri et ou sans domicile fixe. Bonjour Déo Gracias.
Bonjour Jorja. Bonjour tout le monde.
Notre dernière chronique du jour sera assurée par Lorraine, qui viendra nous livrer son analyse critique de la philanthropie dans sa chronique « Les 100 voix ». Elle nous rejoindra plus tard dans l'émission. Pour finir la présentation de l'équipe, notre indispensable réalisatrice du jour, Pauline, sans qui cette émission n'existerait pas. Bonjour Pauline.
Bonjour tout le monde.
La Voix des luttes, l'émission mensuelle qui parcourt les chemins de la colère, c'est tout de suite sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
Sur les chemins de la révolte, la voix des luttes.
Pour démarrer l'émission, il nous semblait important de définir plusieurs termes relatifs aux thématiques que nous allons aborder. C'est la chronique sémantique assurée aujourd'hui par Roxane.
Alors, je voulais commencer cette chronique par une citation d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde et ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Donc afin de nous aussi bien nommer les choses, en l'occurrence ici des personnes, et nous approprier le sens des termes utilisés, nous avons choisi avec l'équipe 4 mots à définir. Personne sans domicile fixe, personne sans abri, mendianteux et clochardeux. Donc j'ai trouvé leur signification sur le site du Larousse, de l'INSEE et sur le site de l'association La Cloche. Donc selon l'INSEE, une personne est qualifiée de « sans domicile » un jour donné si la nuit précédente, elle a eu recours à un service d'hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non prévu pour l'habitation. Les personnes sans domicile fixe peuvent être des personnes sans abri, mais également des résidents en habitation de fortune, hébergement collectif, hôtel, centre d'accueil de demandeurs d'asile ou CADA, ou hébergés dans un logement associatif à titre temporaire. Selon l'INSEE, la notion de sans domicile fixe renvoie aux personnes privées d'une résidence fixe. Elle est plus large que celle de sans-abri, car elle inclut les personnes qui vont d'un hébergement à un autre sans jamais faire l'expérience de la rue. Elle repose moins sur le critère de l'habitat que sur celui de la précarité du statut d'occupation. Une personne contrainte de changer fréquemment de résidence est considérée comme sans domicile fixe. Le Larousse définit le ou la mendiante comme une personne qui mendie pour vivre, cette action signifiant demander quelque chose comme une aumône. Le ou la clocharde est défini comme une personne sans domicile vivant misérablement en marge de la société. Il est intéressant aussi de connaître l'origine de ce mot, qui a d'ailleurs donné le nom à l'association et que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du site internet, je cite. Au XIIe siècle, Louis VI ordonne la création du marché des Halles. Les jours de marché, une grosse cloche était actionnée pour prévenir que les ventes étaient ouvertes. La même cloche résonnait de nouveau à la fin du marché et c'est là qu'on voyait apparaître les plus démunis, qui attendaient que les étals soient remballés et les commerçants partis, pour récupérer les denrées qui n'avaient pas été achetées. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en ce début d'émission. Et donc vous, Maxime, je voulais vous demander si vous accordiez une importance particulière, au choix de ces différents termes.
Merci Roxane pour cette introduction qui met dans le bain, comme on dit. Je n'avais pas justement toutes ces définitions Larousse, donc c'est intéressant ce côté clochard, etc. Enfin, pour le clochard, effectivement, c'est l'étymologie que nous, on utilise. Il y en a une autre qui est un peu plus religieuse, qu'on utilise un petit peu moins. Mais effectivement, c'était les personnes qui allaient récupérer, et on les appelait, Édith Piaf les chantait, les mômes de la cloche, et ce qui a donné en fait dérivé le mot clochard, qui pour nous est très péjoratif, et la définition du Larousse, justement, comme vous l'avez cité, je trouve, est assez péjorative, et nous, c'était notre objectif de lutter justement contre cette image qu'on a du clochard, du clodo, comme on les appelle, tout simplement. Après, voilà, bon, toute personne sans domicile, effectivement, les chiffres, en plus, sont compliqués. Je ne sais pas si on y reviendra après, peut-être avec toi, Déo Gracia. Non, peut-être pas, mais en tout cas, les chiffres sont assez énormes. Et moi, il n'y a pas de différence pour moi. Pour moi, on s'occupe d'une personne qui est dans le besoin et qui n'a pas de toit, en tout cas, fixe maintenant.
Merci.
La voix des luttes. Une émission initiatique et révoltée.
Pauvre ou riche, l'homme contemporain souffre d'une difficulté à habiter dont il est à la fois l'artisan et la victime. Le paysage de ces villes et l'état de la biosphère en offrent l'illustration la plus concrète. Observant le chaos dans lequel vit l'humanité à la fin du XXe siècle, l'essayiste Robert Harrison constate. Nul ne peut dire combien de temps nous resterons des réfugiés sur Terre, mais nous savons aujourd'hui, même les plus privilégiés, les mieux protégés d'entre nous, que nous sommes sans domicile. En vieil argot, lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu ses clés. Lorsque nous mourons aujourd'hui, avons-nous encore quelque chose à rendre ? On peut être un errant sur Terre dans un pavillon en préfabriqué ou dans un bâtiment moderne et luxueux, mais pour un nombre croissant d'êtres humains, la difficulté à habiter doit s'entendre au sens le plus littéral. Dans les grandes villes, le gourbi le plus étroit, le plus improbable, se loue des fortunes. Contraintes à d'extravagantes contorsions par la faible surface de vie qu'on leur accorde, les citadins étouffent et s'étiolent. En France, parmi les gens qui sont à la rue, 3 sur 10 ont un emploi sans pour autant parvenir à se loger. Dans l'œuvre de l'immense rêveur que fut l'écrivain Robert Walser, apparaît de façon récurrente la figure de la logeuse. Son héros, Simone Tanner, vagabondant sur les routes, folâtrant dans les champs et les forêts, trouvant un travail, le quittant quelques semaines plus tard après avoir déroulé une longue liste de griefs à la face de son employeur médusé, rencontre ainsi sur son chemin cette femme à la bonté providentielle qui lui offre gracieusement une chambre simple et belle où s'abriter pour un temps. À travers elle, c'est sur l'hospitalité du monde, sur sa fondamentale bienveillance, que parie le poète.
Merci Pauline. C'était donc un extrait de Mona Chollet du livre La tyrannie de la réalité. Et on se demandait, est-ce que vous aussi, Maxime Mureau, vous pariez sur l'hospitalité du monde et sa fondamentale bienveillance, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre désabusé?
Si on était désabusés, je pense qu'on ne serait pas tous autour de cette table, déjà, pour parler de ce sujet et essayer de faire bouger les choses et les lignes. Non, moi, je crois fondamentalement en l'humain. Enfin, j'en parle souvent. Pour moi, je pense qu'on est avant tout des humains, et les humains sont faits pour aussi s'entraider et accompagner, et que ce soit une entraide envers l'humain, envers la nature, envers les animaux, etc. Je pense qu'il faut qu'on vive tous en symbiose afin d'aller vers le meilleur.
Alors, pour passer à des présentations plus concrètes et que les auditeurs et auditrices vous connaissent mieux, Maxime Mureau, vous avez 34 ans et vous venez du Mans. Vous avez eu une éducation que vous qualifiez de gauche catholique dans une famille qui n'était pas militante. De votre côté, vous êtes devenu bénévole au Resto du Cœur un peu par hasard vers 18 ans. Vous avez fait des études de gestion, d'administration, puis d'histoire, avant d'entamer un cursus dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez voyagé presque un an en Amérique du Sud. Vous aimez le théâtre d'impro, les clowns, le cabaret. Vous avez vécu à Paris et travaillé dans l'éducation populaire auprès d'Unicité et de la Fève, avant de devenir donc directeur régional de l'association La Cloche en Pays de la Loire. Et cela fera 3 ans en février. Donc pour rappel, La Cloche, comme le disait Roura, c'est une association nationale qui a été créée en 2014 et qui a pour but de réhabiliter l'image des personnes les plus démunies, des personnes qui sont en situation de rue ou de grand isolement. Donc tout d'abord, une question qu'on souhaite poser au début de chacune de nos émissions, puisqu'elle nous paraît centrale pour présenter nos invités dans une émission qui s'appelle La Voix des Luttes. Est-ce que vous vous définissez comme militant? Et quelle que soit la réponse, pourquoi?
Merci pour cette autobiographie, enfin cette biographie, pardon. Très, très court, très succinct, c'est très bien. Est-ce que je suis militant? Je ne sais pas, mais c'est là la question. Je vais faire ma réponse de Normand, oui et non. En fait, je travaille dans le milieu associatif, donc depuis, comme vous l'avez dit, depuis ma formation, en fait, où j'ai plus ou moins trouvé ma voie. Peut-être la voie des luttes d'ailleurs, mais en tout cas où j'ai trouvé ma voix à moi sur cette économie sociale et solidaire, donc chargée de valeurs de respect, d'ouverture, de transparence dans le social, etc. Et en fait, peut-être que j'ai mis de côté, en fait, on va dire, mon militantisme ou mon activité associative à côté, puisque je me suis concentré dans cette voie professionnelle où je travaille donc depuis, je ne sais pas trop, j'ai eu en 2009, donc plus de 10 ans en tout cas dans le milieu associatif, dans des assos qui défendent des projets pour moi militants en fait, que ce soit au niveau culturel, parce que j'ai bossé à Nantes, à Pâques-la-Lune aussi, justement, donc défendre la culture pour tous et partout dans les quartiers populaires, comme vous l'avez dit, Unicité, La Fève et aujourd'hui La Cloche. Voilà, je ne me sens pas militant. En vrai, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont militants et qui le font très très bien. Je pense à des collègues qui, par exemple, sont tous les soirs ou chaque soir par semaine en train de distribuer à manger via l'autre cantine à Talensac, ou à d'autres structures, des bénévoles militants vraiment engagés, Médecins du Monde ou autres. Voilà, eux, pour moi, j'en parlerai plus du militantisme. Moi, je suis un professionnel du champ social et du milieu qui m'entoure, ce qui est bien parfois. Moins bien d'autres, comme le militantisme peut être très bien et parfois aussi un peu plus contraignant. Voilà. Donc, oui et non.
Très bien.
Désolé.
On lit sur votre site que 902 000 personnes sont privées de logement personnel en France aujourd'hui et d'ailleurs que c'est l'équivalent de 11 stades de France remplis. Aujourd'hui, 83% des personnes sans domicile souffrent du rejet des passants, ce qui est un frein à leur réinsertion. Et donc vous, on l'a dit, c'est un public que vous connaissez plutôt bien. Est-ce qu'au cours des années, votre regard à vous sur ce public-là a changé?
Est-ce qu'il a changé? J'aimerais dire que oui. Après, peut-être que là, justement, je suis peut-être encore trop dans l'assaut et je ne prends pas assez de recul. En tout cas, je pense qu'on parle de plus en plus du monde de la rue. On parle aussi beaucoup des migrants et autres qui font partie justement de ces 902 000 personnes. À savoir que ce chiffre de 900 000 personnes, donc c'est la Fondation Abbé Pierre qui sort son rapport annuel là-dessus, mais dedans, il y a 143 000 personnes sans domicile. Pour les autres personnes, ce sont des habitations, comme l'a dit Roxane, qui peuvent être en squat ou habiter chez un tiers, etc., qui sont considérées comme sans domicile fixe puisqu'ils n'ont pas d'adresse propre avec la difficulté dont on a parlé, logement et autres. On va parler. Mais la question...
Est-ce que votre regard, le regard a changé?
Je pense que oui, il y a une lumière qui a été faite en plus sur la vague migratoire qu'on a eue et qui se passe aujourd'hui, qui nous permet aussi de mettre en lumière en fait cette problématique qu'il y a du monde en situation de rue, et avec aussi des campagnes de très belles assos qui sont faites régulièrement, comme la Fondation Abbé Pierre, sur lesquelles on aime beaucoup en tout cas cette façon de voir les choses. Je pense que les gens sont conscients, au courant. Après, dans les détails, non. Est-ce qu'ils changent de regard? Je l'espère. En tout cas, nous, on essaie de tendre à ça.
Mmh. Tout en comprenant en fait qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur, parce qu'on lit par exemple qu'une personne sur huit cite la peur des personnes sans abri pour passer à l'action. Vous comprenez
ouais,
ce...
Tout à fait. En fait, la peur c'est, voilà, c'est un sentiment qui peut s'expliquer. Et en général, pour la peur du monde de la rue, c'est aussi la peur de tomber, justement, dans la rue. Et en général, on se protège nous-mêmes. Ça, c'est aussi humain. Par exemple, on voit quelqu'un qui est dans la rue, qui travaille et qui fait la manche. Eh bien, on ne va pas le regarder parce qu'on se dit « Oh là là, j'espère qu'un jour, je ne tomberai jamais là comme ça. » Je ne peux pas dire ça, mais voilà, pour eux, ça peut être ça. Et aussi, j'ai peur pour ma famille que les personnes puissent tomber à la rue et je ne saurais pas comment faire. Voilà. Ça s'apprend, ça s'éduque, c'est plein de choses comme ça. C'est aussi transformer le regard sur cette société qui, pour moi, n'est pas cette société, et la société en général.
Alors, parler de public, ça pourrait laisser penser aussi qu'il y a une certaine uniformité, mais vous commencez à en parler, il y a une diversité importante de profils, entre guillemets, de personnes qui sont à la rue. Par exemple, 24% des personnes sans domicile ont un emploi, ce qui veut dire que l'emploi ne garantit pas le logement. Est-ce qu'à Nantes, vous le remarquez, c'est particulièrement vrai, on peut le penser vu que le marché de l'immobilier est très tendu?
Je pense que c'est partout en France, ouais, exactement, c'est ce que vous avez dit, Constance. C'est que le marché de l'emploi est extrêmement tendu aujourd'hui et que ça ne suffit pas d'avoir un emploi pour avoir un job. Après, nous, ce qu'on explique souvent aussi dans notre asso et via des formations qu'on fait auprès de tout type de personnes qui souhaitent avoir plus d'infos sur le monde de la rue, c'est que être à la rue, c'est un parcours du combattant aussi, aujourd'hui. C'est que nous, en tant qu'habitants, on se lève, on va pouvoir prendre une douche, laver les dents, prendre son petit déjeuner, et après s'habiller et aller au job. Une personne sans domicile, le temps qu'elle prenne sa douche, qu'elle check sa boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'elle doit aller au CCAS de la ville de Nantes, donc se déplacer pour aller voir son courrier. Il y a toute une démarche qui, en fait, dans ta journée, va prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est très timé. À 18h30, il faut venir parce qu'il y a la distribution alimentaire le soir. Si tu ne vas pas récupérer tes affaires le matin, eh ben, tu n'as pas d'affaires pour la journée. Donc, tout est timé et rythmé. Et donc, dans toute cette journée-là, comment faire aussi pour trouver un job? Donc, 23%, je trouve que c'est beaucoup. Et en même temps, je trouve que ça pourrait être plus si beaucoup de choses étaient facilitées. Et puis, le prix du loyer, clairement. Enfin, il n'y a pas à se mentir. Si on n'a pas de garant, bah, déjà, c'est compliqué. Quand on est à la rue, c'est encore plus compliqué. Le chemin est long.
Mmh. Est-ce qu'il y a, pour le coup, à l'inverse, des profils qui reviennent un peu? Enfin, je disais, par exemple, que les anciens enfants placés, alors qu'ils représentent que 2 à 3% de la population en général, représentent presque un tiers des personnes.
Complètement. Ça, c'est plus un problème de système et autres. C'est qu'à partir de 18 ans, on sort de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Le RSA, c'est 25 ans. Voilà. Il y a un trou dans la raquette entre les deux, et si la personne n'est pas suivie, accompagnée, elle peut vite basculer dans ces travers qu'elle a eu soit par son passé, par son éducation et autres, soit parce qu'elle se retrouve face à elle-même et que ce n'est pas toujours évident.
Merci Maxime, merci Constance. On marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après sur Prune 92 FM.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing.
freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
On vient d'écouter le morceau The Partisan de Leonard Cohen que vous avez choisi, Maxime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce morceau-là ?
Ouh là là ! Je pense que c'est un petit peu Leonard Cohen. Ça, c'est aussi le passé de ma maman qui écoutait beaucoup Leonard Cohen à son époque, encore aujourd'hui. Bon, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, Leonard Cohen.
Ouais, il y a quelques années.
Ouais, 2-3 ans, je dirais, ou même peut-être un peu plus.
Un petit peu plus, ouais, je pense.
Ouais, je sais plus. Et voilà, chanson aussi, un très beau poète, et j'aime beaucoup aussi sa voix, sa mélodie, et un peu engagée également.
Merci. On va passer tout de suite à la chronique Le droit des luttes. Comme l'indique le Dictionnaire de l'économie et des sciences sociales dans l'édition de 1993, le droit est, en théorie, l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus. En pratique, ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça, et c'est ce que Deo Gracias va nous expliquer dans sa chronique « Le droit des luttes ».
Merci Roura. Alors aujourd'hui, chronique sur l'ineffectivité du droit au logement en France. Les raisons et les solutions possibles. Rappelez-vous, c'était le 27 juillet 2017, fraîchement élu depuis 2 mois, Emmanuel Macron faisait l'une de ses plus belles promesses.
La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi.
Plus de 3 ans après, où en est-on ? En 2019, 500 personnes sont décédées dans la rue. En 2020, 4 millions sont encore mal logées. Cette situation ne risque pas de s'améliorer, car d'après le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, près de 50 000 nuitées d'hôtels ont été payées par l'État, un chiffre en hausse par rapport à 2018. Autre augmentation en 2019, celui du nombre de ménages inscrits sur liste d'attente pour un logement social, qui s'établit à 2,1 millions. Enfin, une hausse encore plus désolante, celle du nombre de ménages expulsés de leur logement avec le concours de la force publique, 16 000 rien que l'an dernier. Pourtant, notre droit français n'est pas avare en textes garantissant un droit au logement décent. On retrouve cette ambition dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans 3 codes de loi. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a rappelé en 1995 la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Et que le Code de l'action sociale et des familles dispose que toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment un dispositif d'hébergement d'urgence. Mais, malgré tous ces textes, toutes ces lois, toutes ces promesses, la situation des personnes sans-abri n'a pas progressé depuis 3 ans, bien au contraire. Alors pourquoi l'État, tous ses services, n'arrivent pas à endiguer cette situation ? Qu'est-ce qui empêche concrètement que toute personne désirant être logée ne trouve pas de logement décent ? Et enfin, comment pourrait-on utiliser le droit pour faire évoluer cette situation ? Premier constat, le dispositif posé par la loi Dalo pour droit au logement imposable, qui reconnaît un droit au logement décent et indépendant à toute personne dans le besoin, ne fonctionne pas. Encore 2 millions de personnes sont en attente d'un logement social. Pourquoi ? Premièrement, les institutions chargées de traiter les dossiers n'ont pas les moyens suffisants pour mener à bien leur mission. Bien souvent composées de bénévoles, les COMED, pour commission de médiation départementale, manquent cruellement de formation et de juristes. Ainsi, de trop nombreux dossiers sont traités dans la hâte, et ce, parfois de manière illégale et arbitraire, comme le soulignent plusieurs rapports officiels sur cette question. Deuxièmement, bien que gratuit et possible sans avocat, le recours contre ces décisions est très peu utilisé. Entre 2007 et 2017, seules 141 requêtes sont arrivées devant un tribunal administratif. Cependant, les juges donnent souvent raison aux COMED, car ils ne veulent pas s'immiscer dans l'appréciation de leurs décisions. Ils se contentent alors de vérifier que la procédure a bien été respectée et qu'une erreur manifeste de droit n'apparaît pas dans le dossier. Ainsi, seulement 3 requêtes ont été transformées en avis favorable par le juge administratif. Le recours est donc, dans ce cas, quasi inutile. Troisièmement, le manque criant de logements. Une solution simple revient souvent sur le devant de la scène, la construction de logements sociaux. Pourtant, c'est une obligation légale depuis la loi SRU de 2003. Il faut au minimum 20%, voire 25% de logements sociaux pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Mais des maires, dont beaucoup de la banlieue parisienne, freinent l'application de la loi pour limiter la mixité sociale dans leurs communes et les préfets l'extensionnent très peu. C'est pourquoi dans ces villes, le minimum légal n'est pas atteint. Leurs maires préfèrent payer une amende plutôt que d'accueillir cette population. En attendant les constructions, il reste 2 solutions très intéressantes. D'une part, l'adoption d'une loi sur la réquisition des logements vacants, déjà proposée par Cécile Duflot en 2012, mais qui n'a jamais été suivie des faits. Pourtant, la possibilité de réquisitionner un logement vide n'est pas interdite. En effet, le maire en a le pouvoir pour loger des personnes sans abri lorsqu'aucune autre solution d'hébergement n'est possible. Mais le juge administratif limite cette faculté à l'urgence et à la preuve d'un risque d'un trouble grave à l'ordre public. C'est pourquoi il faut une nouvelle loi pour rendre plus facile la réquisition des logements vacants pour les maires. En effet, l'INSEE en a dénombré pas moins de 3 millions en 2018 en France. Mais comble de l'ironie, seulement 120 000 logements auraient été réquisitionnés depuis 1945. D'autre part, l'autre solution, c'est l'ouverture de squats pour contraindre les pouvoirs publics à agir rapidement. En effet, même si cette solution paraît en premier lieu illégale, elle peut se régulariser en négociant avec les pouvoirs publics. C'est l'exemple de la Maison du Peuple à Nantes. C'est un squat qui s'est ouvert il y a à peine un an dans un ancien collège privé catholique du centre de Nantes. Et le 29 novembre dernier, après avoir constaté l'illégalité de cette situation, les juges ont autorisé l'occupation de ce bâtiment pour une durée de 4 mois avant toute expulsion. L'autorisation a d'ailleurs été prolongée du fait du Covid-19. Et en plus, le propriétaire du bâtiment, le diocèse de Nantes, a même fini par retirer sa plainte contre les occupants. Désormais, le 115 renvoie certaines personnes sans abri vers la Maison du Peuple, preuve que les pouvoirs publics ont accepté cet état de fait. Donc ensemble, faisons pression pour que les maires réquisitionnent des logements vides durant l'hiver. Et en attendant le vote d'une nouvelle loi, ouvrons des squats pour forcer les propriétaires à négocier avec la justice, car n'oublions pas, la loi est aussi une arme pour lutter et défendre nos droits. Et vous, Maxime, que pensez-vous de l'ouverture de squats pour contraindre les pouvoirs publics à agir ?
J'allais citer l'exemple de la Maison du Peuple, donc très très bien. C'est vrai que ça fait énormément bouger les choses. Je pense que c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas que la solution, malheureusement. Mais effectivement, malheureusement, aujourd'hui, on est, je trouve, dans une situation où on est obligé, en fait, d'aller essayer de tordre le bras aux institutions, tordre le bras et les chatouiller là où ça leur plaît pas pour que ça fasse bouger les choses. On est dans une société du pansement qui, en fait, va pas réguler les choses dès la base du problème, mais va plutôt colmater les petites brèches et un jour, je pense que ça va péter sévère. Mais en tout cas, je pense qu'on est trop dans la petite réparation du bobo. J'ai adoré la citation de Monsieur Macron du début et que voilà, il y a un collectif justement Personne à la rue qui s'est monté à Nantes en réponse aussi à ça. Il y a une solution qui normalement est en train de se faire, c'est le logement d'abord. On n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais qui est prôné par le gouvernement Hollande et maintenant aujourd'hui le gouvernement Macron, c'est cette solution justement où dès qu'une personne est à la rue, tac, elle est directement logée et après on travaille sur sa réinsertion pour justement virer tout ce qui est 115 et autres. Je n'ai pas peut-être trop le temps d'en parler là, mais c'est en cours. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. J'en ai aucune idée. Ça a fait ses preuves en Finlande. Bon, après avoir... on n'est pas non plus la Finlande et ce n'est pas du tout les mêmes pays. Mais oui, bien sûr, l'ouverture des squats, je pense que c'est une magnifique solution parce que déjà, ça permet de mettre des gens à l'abri.
Voilà. Et c'est souvent aussi des militants justement qui prennent le lead là-dessus. Donc ça, c'est ultra chouette. Et après, c'est bien si justement les pouvoirs publics ou d'autres associations puissent travailler tous ensemble en fait pour pouvoir aider ces personnes-là au mieux.
La voix des luttes, les murmures de la colère.
Alors, pour continuer un peu dans le même axe de questionnement, dans quelle mesure justement la cloche elle s'inscrit dans une sorte de complémentarité avec des assos qui peuvent être peut-être plus militantes comme l'autre cantine, et peut-être de l'autre côté des acteurs plus institutionnels qui s'occuperaient par exemple de trouver des logements, des hébergements d'urgence.
Alors nous, notre association, on a un des projets phares qui s'appelle le projet du Carillon, donc qui est un réseau de commerçants solidaires qui ouvre leurs portes aux sans-domicile en proposant des services gratuits, accès à l'eau, recharger son téléphone, utiliser les toilettes, récupérer des invendus, etc., etc. Et qui permet aussi à certains habitants de prépayer des produits qui vont être mis en attente ou suspendus dans le commerce, type café, type coupe de cheveux, merguez en attente, on a à Nantes, place de théâtre, place de ciné, etc. Ce dispositif-là, en fait, est justement complémentaire de la plupart des structures que vous avez citées. Et c'est pour ça qu'on travaille très bien avec, par exemple, le CCS de la ville de Bouguenay et également avec l'autre cantine, la Maison du Peuple, le Secours catholique, Secours Pop, etc., qui, justement, utilisent nos projets, en fait, comme une complémentarité et, en fait, un mode d'orientation et d'insertion sociale des personnes sans domicile dans la société. Ce qu'on constate souvent, c'est l'entre-soi. L'entre-soi tue quoi qu'il arrive, ou en tout cas isole, que ce soit habitant d'un habitant ou religion ou pas. Justement, d'ailleurs, l'important, c'est la découverte du monde et la découverte des autres personnes qui nous entourent. Et justement, le carillon permet, à la sortie, par exemple, d'une structure d'accueil X ou Y, d'aller dans un lieu de vie ouvert à tous, mixé dans la population ouvert à tous. Je ne dis pas forcément qu'il y a une création de la sociale qui va se faire, mais en tout cas, il va y avoir un mélange et un changement de regard des deux côtés, en fait, et de la personne qui rentre et de la personne qui accueille. Et après, à côté de ça, l'asso, elle, on a d'autres projets, justement, où là, on fait du faire ensemble avec, quand tout va bien, des événements ouverts à tous et participatifs. Là, prochainement, on va faire des ateliers d'écriture, justement, ouverts à tous, habitants, non-habitants. Et là aussi, c'est, pour le coup, faire des choses ensemble et donc, voilà, la rencontre.
Et de quelle façon, justement, vous réfléchissez à ces actions? Enfin, comment vous dites, ce truc-là, ça va marcher? Et est-ce que les personnes, justement, sans domicile sont incluses dans les réflexions autour de ces actions-là?
Complètement. Bah, voilà, nous, c'est aussi la base de la création aussi de l'asso, c'est que nous, on a des bénévoles avec et sans domicile. Et donc, on travaille justement avec ce que pensent, que aimeraient faire, etc. Donc là, par exemple, les ateliers d'écriture ou autres projets, ce sont des personnes sans domicile qui ont eu l'idée. Et donc, nous, on essaie de mettre en place avec eux en forme. Il y a même un de nos bénévoles qui va faire un tournoi de belote solidaire le 7 novembre, si la Covid nous n'empêche pas. Mais pour l'instant, on maintient. Mais voilà, on essaye de répondre aux attentes des personnes sans domicile qui, elles, bah, voilà, connaissent aussi ce milieu-là. Et là, on est en train de travailler. Bon, on devait le faire en juin, mais avec le confinement, ce n'est pas possible. On a une AG en novembre et donc on va faire rentrer des personnes sans domicile dans notre CA.
Alors, concrètement, vous, au quotidien, en tant que directeur régional, vous êtes à la fois en charge des partenariats, de la recherche de subventions, mais vous êtes aussi sur le terrain, notamment au Wattini, sur l'île de Nantes, tous les mercredis matin, pour un accueil de tous les publics. Est-ce que vous avez besoin de ces rencontres dans votre travail au titre plus personnel?
Ouais, complètement. J'ai pas envie d'être un technocrate, ce que je dis souvent. Je pense que aujourd'hui, beaucoup de mon temps est aussi voilà, de créer des projets, des partenariats. Je travaille aussi pas mal sur le management de notre équipe. Donc j'ai une salariée, puis j'accompagne et je forme deux volontaires en service civique. En ce moment, d'ailleurs, un stagiaire. On aimerait bien avoir un troisième salarié, donc ça prend un peu de temps. Et les relations avec les pouvoirs publics, les partenaires et autres. Si je perds le terrain, je perds en fait la nature de notre projet, c'est-à-dire la rencontre des publics et surtout la connaissance du public. Et je serai complètement effacé, en fait. Enfin, j'aurai un regard qui ne va pas forcément être le bon. Donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi de ça. Un, pour me nourrir. Un, parce que j'aime aussi faire ça. Et deux, pour être plus professionnel et plus percutant par la suite. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que nous, on est dans... La cloche est présente en France dans 9 villes. Les 9 directeurs de ces villes, donc moi, sont également co-directeurs de la structure nationale. Mmh. On a une co-direction, ce qu'on appelle élargie. c'est le bazar, mais c'est cool parce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas le siège qui va décider de, c'est nous collectivement, on dit, bon, est-ce que ça paraît pertinent comme projet? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Ah non, voilà, par rapport à notre éthique, notre projet, etc. Donc ça prend un peu de temps aussi, mais au moins chacun sa place. Et après, on fait aussi les différents salariés qui sont dans l'association aussi participent à des temps communs pour répondre à des projets communs. Tout le monde essaie de participer, on essaye.
Ok. Dans un article de Ouest France de 2019, vous disiez que le public avec lequel vous travaillez recherchait le don contre don. Et vous disiez que c'est indispensable de se sentir utile. Est-ce que c'est vraiment une volonté de ne pas tomber peut-être dans le côté charité? Enfin, est-ce que votre travail, c'est finalement de faire en sorte aussi que ce public-là se sente utile?
Oui, oui, complètement. On essaye justement ce que je dis souvent quand on va voir des gens en situation de rue dans la rue. C'est une étape à franchir, hein, mais demander l'heure à la personne. La personne, elle va dire, attends, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Tu me demandes quelque chose alors que moi, je te demande toute la journée de l'argent. Et en fait, et là, il y aura un échange peut-être qui peut se faire où tu n'as pas une clope, t'as pas, tu ne sais pas où est-ce qu'est cette rue-là. En général, les personnes en situation de rue connaissent très bien la ville. Et donc, c'est aussi cet échange n'est pas justement symboliser le fait que moi, je donne, toi, tu es receveur. Et donc, dans cette position-là, il y a toujours une position de dominant-dominé. Et comme quand on va aller parler à une personne en situation de rue, on va demander à se faire inviter à parler avec elle déjà. Et si elle est assise, à se mettre à sa hauteur. Comme quand on va parler, par exemple, à une personne qui est assise, par exemple, je pense au corps professoral, c'est toujours bien de se mettre à hauteur. Sinon, il y a toujours je t'écrase, en fait, physiquement, même si c'est peut-être imperceptible, mais il y a quand même cette image de « je suis debout, tu es assis » et ça restera comme ça. Non, nous, on est plus sur une horizontalité. Et donc, effectivement, nous, nos bénévoles, certains sont effectivement, même si j'aime pas, on va dire, voilà, utilisateurs du carillon, utilisent le projet du carillon dans leur vie de tous les jours. Et également, ils sont aussi bénévoles chez nous. Et là, finalement, il y a un don contre don, en fait, qui s'opère naturellement pour eux, sans qu'on le dise nous, mais ça se fait naturellement, en fait. Et c'est dans notre philosophie.
Merci Constance, merci Maxime. On marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après sur Prune 92 FM.
Les mots qui s'étalent dans toutes les chansons, faut se le dire, c'est un fantôme, n'y touche pas. Brûlant d'arôme, regarde tout bas, l'air innocent de Saint-Vincent. On a maquillé nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique. Mais l'un sans l'autre, le cœur n'ose pas. Mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va. Effleurant le vent, Saint-Vincent. On n'est pas nihiliste, c'est la rue qui dit tout ça. Le prochain sur la liste, c'est toi, tu me raconteras. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Une fois passé du côté de l'abissage, plus rien à faire. Mais quand tu gigotes, je chavire doucement. Tu me ravigotes tant et les yeux sanglants. Si t'es le talent, moi je serai l'envie. La froide lame et si nos deux vies s'éclaire un moment dans une harmonie, je resserrerai les dents. Un petit coup de couteau, trois petites balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou de la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Il cousait sa vie, si le temps vous en dit. Rue des Brouettes. Mais les artistes, Saint-Vincent, ça n'existe pas. Mais la chanson va. Ta-da-da-da-da-da.
On vient d'écouter le morceau Saint-Vincent du groupe Tête Red. Même question que tout à l'heure, Maxime, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce morceau ?
La poésie musicale et la poésie des mots. Voilà, c'est tout. C'est un groupe que j'écoutais aussi étant jeune, même si je suis toujours jeune, et qui m'a fait pas mal de sensations aussi personnelles à l'intérieur de soi en concert, où j'ai senti une sorte de zénitude lors d'un morceau donc, que je voulais aussi passer, mais qui est beaucoup trop long, qui s'appelle Ginette, et qui est assez sympa. Voilà.
Donc la poésie toujours...
Toujours la poésie de la vie.
Très bien. Merci pour cette réponse. On va passer tout de suite à la chronique Les 100 voix de Lorraine qui nous a rejoint dans les studios. Bonjour Lorraine.
Bonjour. Et tout le monde d'ailleurs.
Lorsque l'on s'intéresse aux organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'exclusion, on s'aperçoit assez rapidement que leur financement n'est pas exclusivement assuré par l'État, loin s'en faut. Les mécènes et les philanthropes sont également des acteurs non négligeables. Et c'est ce dont Lorraine va nous parler sans détour dans sa chronique « Les 100 voix ».
Tout à fait. Alors, commençons par le commencement. Si vous voulez bien, autour de la table, on aime bien les définitions, donc allons-y. Selon le Larousse, la philanthropie serait le sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres, amour de l'humanité et ou désintéressement. Il viendrait du mot grec ancien « philos », qui veut dire « ami », et celui « d'anthropos », signifiant « humain ». Il désigne en premier lieu une attitude de bienveillance, doublée de bienfaisance de certaines personnes à l'égard d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas, on va y arriver, mais qu'elles considèrent comme démunies matériellement et par conséquent nécessiteuses. Alors, petite parenthèse, cette grande source de connaissances ultime qu'est Wikipédia a retenu mon attention quand mes yeux parcoururent vaguement les internets, parce qu'elle affiche la phrase suivante, « La philanthropie s'oppose à la misanthropie ». Et pour ceux et celles qui ne sauraient pas, la misanthropie est le fait de détester ou mépriser le genre humain dans son ensemble, sans aucune distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou de nationalité. Alors déjà, on s'en sort bien, on ne peut pas crier à la discrimination, et on sait comment ce mot dérange en ce moment, donc bon, je digresse. En tout cas, cette phrase opposant la philanthropie à la misanthropie m'a fait penser à un spectacle de Blanche Cardin où elle dit, mais c'est quoi cette mégalomanie de se voir dans une logique binaire ? Soit on est un sauveur, soit on est un connard. Je paraphrase, hein, je précise. Donc je digresse, mais pas trop quand même, puisque n'est-ce pas un petit peu l'idée des sauveurs qui seraient soi-disant éclairés dans l'allocation de leur aide, qui est un peu au cœur, en tout cas, l'essence de la philanthropie ? Et la question ne serait-elle pas aussi dans un tel système ? Comment éviter que le pauvre, entre guillemets, ne soit contraint de devenir le fou du roi ou de la bourgeoisie et par conséquent contraint de danser pour gagner son souper. Je dis ça surtout parce qu'il y a quelques semaines environ, je suis tombée sur une vidéo de la page Brute en parcourant Facebook. Oui, j'utilise encore Facebook, bon, passons. Je tombe sur une vidéo qui explique comment un homme a retrouvé un toit grâce au projet d'un monsieur qui exerçait une profession pendant longtemps, et je cite, « dans les pays en développement ». En France, ce projet consiste à assister les personnes sans logement par le biais d'un « tiny house », si vous ne connaissez pas, les tiny houses, ce sont les petites maisons souvent mobiles, concept venu des États-Unis. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir un petit malaise quand j'entendais à la fin, il entend construire une cinquantaine de ces mêmes petites maisons par an et de les vendre au grand public. Forcément, ça arrive à la fin et là, la pensée que je ne veux surtout pas avoir. Est-ce que je viens de regarder une publicité pour une entreprise dans laquelle figurent de vraies personnes dans le besoin ? Et c'est justement pour moi là le sujet, parce qu'en effet, ce n'est pas au cours d'une chronique de 3 minutes que je pourrais vous expliquer toutes les implications du mécénat, mais je me dis que la question n'est pas seulement comment mesurer, entre guillemets, l'altruisme des milliardaires et des millionnaires, qui bénéficient d'ailleurs de déductions fiscales pour leur générosité, mais plutôt si le mécénat ou la philanthropie serait véritablement, servirait plutôt l'intérêt général ou à légitimer un système de moins en moins égalitaire. Il est peut-être moins gênant, j'imagine, de voir le nom de Bernard Arnault, la Fondation Louis Vuitton, sur la devanture d'un musée, mais est-ce que les lacunes du service public devraient devenir le terrain de publicité des mécènes ou des entreprises ? Ne me méprenez pas, surtout. Hein. Loin de moi l'intention de juger l'action de ce monsieur comme étant dénuée d'altruisme, mais la question se pose de manière plus générale. Né à la fin du siècle des Lumières, époque marquée par la déchristianisation et la montée en puissance des États-nations, la philanthropie préfigure en partie ce que seront plus tard les politiques publics d'aide sociale ou du moins dans des pays comme la France, dit laïque. Enlever la mainmise de l'Église dans ce domaine allait dans l'idée que l'État doit assurer directement cette action ou en tout cas l'obligation lui était imputée. Je me demande donc, est-ce que le capitalisme a vocation à remplacer l'Église sur ce terrain? Est-ce le choix que nous sommes prêts ou prêtes à faire? Parce que le don n'est pas l'impôt, et il est utile de le rappeler, l'impôt paye les services qui ne sont justement pas sexy comme la devanture d'un musée. L'entretien ou le nettoyage des rues, le contrat des personnes qui font tourner des associations qui justement sont sur le front de ces actions sociales. Clin d'œil à Maxime, notre invitée. Mais si je force un peu les traits, n'est-ce pas tendre vers une forme de référendum perpétuel sur les actions publiques sociales entre celles qui valent la peine et d'autres qui seraient sujettes à débat? J'ouvre peut-être cette question à notre invitée du jour. En tout cas, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez aller un peu plus loin sur la question de la philanthropie, je vous recommande certaines sources, dont une vidéo de la chaîne YouTube Stupid Economics intitulée « Le don, faut-il remercier Bill Gates ?» ou encore des vidéos d'Atagueule sur la philanthropie.
La Voix des Luttes, l'émission initiatique et révoltée de 12h à 13h sur Prune 92 FM tous les derniers jeudis du mois.
Maxime Hureau, quelle est la visibilité, selon vous, on va dire publique, de la lutte contre le mal-logement aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait partie des luttes qui sont, selon vous, peut-être un peu invisibilisées? Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est une lutte reconnue justement par les pouvoirs publics d'une part et par la population d'autre part?
Waouh. Ah, dis donc.
Vous avez 4 ans.
Quelle journée. Non, mais déjà, très, très belle chronique de Lorraine. J'aime beaucoup ce débat qu'on va avoir perpétuellement et qui va arriver de plus en plus, c'est justement de la place que va prendre les entreprises privées, en fait, dans l'aide à certaines structures ou l'aide à certaines personnes, ou autre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Latina, je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas forcément d'accord. Mais ça dépend en fait de quel point de vue on se place. Moi, dans ma vision, j'aimerais en fait que l'État ait toujours en fait ce... alors on n'est pas sur l'État-providence et autres qui doit tout gérer, tout faire, mais je pense qu'elle a sa part en fait de responsabilité et justement d'accompagnement des structures pour justement permettre à des personnes en situation de mal logement ou autre de pouvoir avoir un logement décent, comme on a déjà parlé. Je pense que pour moi, l'État doit avoir ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir de nous accompagner des structures associatives qui sont déjà en place. Pas forcément lui-même. On ne peut pas faire tout seul. Ce que je dis souvent, et ce qui malheureusement arrive des fois de temps en temps entre associations aussi, c'est que la concurrence, on la connaît dans le milieu, on va dire, des entreprises. Ok, j'ai un produit, je le vends, et puis l'autre, s'il vend le même produit que moi, je vais l'écraser ou pas. Hein, c'est un peu très schématique, mais ça peut être un peu l'idée. Parfois, dans le milieu associatif, ça peut arriver aussi, puisque justement, derrière, nous, on va chercher soit des subventions, soit des grands mécènes. Et s'il y a des projets qui sont similaires, ou s'il y a des grands mécènes qui disent, moi, je vais mettre le paquet, par exemple, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, sur l'écologie aujourd'hui, boum, bah, t'as des assos, ils vont prendre un petit virage sur écologiquement pour avoir l'argent. Je suis pas sûr que ça soit comme ça que ça doit fonctionner. En fait, je pense que nous, notre cœur de métier, c'est l'inclusion sociale. On va rester dans notre cœur de métier avec les projets du Carillon et autres projets qu'on mène. On va pas aller demain se mettre à faire la vélorution. Non, mais c'est vrai. Et il faut laisser ça à d'autres. Et je pense que de travailler ensemble, c'est ce qui est le plus important. Donc, je reviens à ce côté État-association. Et pourquoi pas partenaire privé financier. Après, si c'est pour mettre son logo et se verdir un peu et faire du greenwashing, je suis contre. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin d'eux vraiment pour certaines assos, justement, pour pouvoir se permettre soit de payer soit des salaires, soit même des locaux, soit autres. Quand il y a du mécénat aussi, on va dire, gratuit, comme un bailleur qui te file un local, c'est de l'argent, en fait, mais versé différemment. Mais j'entends très bien ce que tu disais aussi, Lorraine, et je pense qu'en fait, l'État va se cacher derrière ça. En se disant, nous, on donne un peu moins. Allez voir les fondations, allez voir les entreprises. Eux, ils ont du blézou. Et en fait, on rentre dans le jeu concurrentiel, on rentre dans un jeu qui est un peu malsain et où l'État se désengage un peu est-ce que c'est ses erreurs? Oui, très certainement, en partie. Même les nôtres aussi, en tant que citoyens. Hein, c'est nous aussi qui ne nous révoltons pas et qui laissons faire les choses. Il y a plein de choses comme ça. On peut revenir sur l'hôpital public aujourd'hui. Si on a tous des masques aujourd'hui dans ce magnifique studio, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place en réanimation aussi. Et au lieu d'avoir le pansement, c'est-à-dire de mettre le masque, il fallait peut-être avoir déjà... Enfin, il n'y a pas que ça. Mais il fallait peut-être avoir plus de place en réa, avoir un hôpital un peu plus sain, que de plutôt supprimer des postes, supprimer des lits et toujours aller dans l'économie de bout de chandelle, en se disant le privé va peut-être pouvoir reprendre le pas, mais bon, bah, pour l'instant, le privé, il ne reprend pas ou il reprend mal. Et pour moi, je pense que... Voilà. En tout cas, je suis plus, on va dire, entre guillemets, étatique que privé.
Et est-ce que, justement, pour vous, toutes les causes, entre guillemets, toutes les luttes se valent, c'est-à-dire, est-ce que le droit au logement devrait être la lutte prioritaire pour vous, ou est-ce qu'il y a d'autres combats qui sont tout aussi importants, voire plus
Dans le milieu du sans-abrisme ou en général?
En fait, je pensais à une interview que j'avais lue de Nicolas Hulot qui disait « Pour moi, la cause au-dessus de tout, c'est l'écologie. » Et en fait, de là découlent tous les autres...
Je trouve pas ça déconnant, effectivement. Après, moi, je pense qu'il y a... Nous, on est... en général, dans notre association, on ne prend pas l'ancienne, ce qu'on appelle la pyramide sociale de Maslow, où on répond à un besoin avant un autre, pour répondre à un autre besoin avant un autre. Nous, on est plus sur le cercle des attentes d'Athalie Carmonde, qui place en fait tout le lien social, la famille, l'argent, le travail, sur la même horizontalité. Pour moi, en fait, il faut attaquer de front partout, alors c'est compliqué, mais en tout cas, je pense que toutes les luttes se valent, et prioriser quelque chose pour une autre, bah, ça va permettre justement à des financeurs privés de se dire « Ok, priorité écologie, le reste, hop !» Et en fait, il va y avoir peut-être un mécanisme sur la balance qui va peut-être pas le faire, ou peut-être pas, je sais pas, en tout cas, c'est pas mon point de vue.
Mmh. Dernière question, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de temps. Que l'on aimerait poser à la fin de toutes nos émissions, La Voix des Luttes. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous met en colère? Qu'est-ce qui vous révolte?
Bah, j'en ai parlé un peu juste avant, c'est le pansement, en fait. C'est la politique du pansement, c'est la politique de... j'ai mon petit mandat à faire, je vois pas plus loin que mon petit mandat ou de ma réélection avant tout. Et ça m'énerve. Et je pense que même nous aussi, citoyens, je pense qu'on devrait plus... se manifester, parce qu'on est peut-être les premiers à couiner quand il y a des grèves. Oh, il faut encore une grève, l'hôpital public. Puis après, demain, oh là là, on doit tous porter un masque, on est confinés, il n'y a pas assez de lits. Bah voilà. En fait, voilà. Et je trouve qu'on est, parfois, en fait, on s'auto-tape sur les doigts en se disant, on râle, on aime râler. Ça, c'est, bon, c'est bien aussi, hein, de râler de temps en temps. Mais là aussi, je râle d'ailleurs. Mais je pense qu'on devrait plus réfléchir sur le long terme. Ça rejoint aussi l'écologie. Hein. Sur le long terme, on ne va pas faire des petits bouts aujourd'hui, oh là là, on va mettre une petite taxe carbone. Non, il faut aller plus loin tout de suite, quoi. Il faut arrêter un petit peu. Et puis, quitte à froisser peut-être tout le monde, bah, au moins, on va jusqu'au bout. Alors, pour l'instant, on va parler politique, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui ne me plaît pas vraiment. Mais voilà, ce serait ça, cette politique du pansement, de toujours faire à court terme et pas à long terme, parce qu'on pense d'abord à soi et pas à l'humanité entière.
Ok. Et pour finir, on voulait proposer dans La Voix des Luttes une carte blanche à nos invités. Donc Maxime, toi tu as choisi, a priori, c'est toujours le cas vu la tête,
ouais, bien sûr. Que tu fais, allons-y.
De nous lire l'éloge de la fatigue, oui. Qui est un poème du comédien, acteur, scénariste et poète Robert Lamoureux.
Tout à fait. Alors voilà, je souhaitais lire ce texte. Alors il y a des idées qui ne me plaisent pas forcément, mais c'est aussi par rapport à mon grand-père et cette côté d'aller toujours vers l'avant et de toujours bosser. Bref, c'est parti. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate, je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas de ces sombres lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons lorsqu'on a fait de soi son unique horizon. Lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous les poids formidables des vies, dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre, et sûr qu'on est le port et la route et le quai, où prendrait-on le droit d'être fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure, marquant chaque victoire en creux sur la figure, et quand le malheur vient y mettre un creux de plus parmi tant d'autres, creux ils passent inaperçus. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste, c'est le prix d'une journée d'effort et de lutte, c'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit, non pas le prix qu'on paie mais celui qu'on reçoit, c'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, c'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,
J'écoute mes sommeils, et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer ? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
Merci beaucoup, Maxime Hureau. Ainsi s'achève la première édition de La Voix des Luttes. Merci à toute l'équipe, Constance, Roxane, Deo Gracias, Lorraine et Pauline. Merci à vous, auditeurices de Prune, pour votre attention. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Nous vous donnons rendez-vous jeudi 26 novembre à midi pour notre deuxième émission. D'ici là, La Voix des Luttes vous souhaite de trouver votre propre chemin de révolte.
La Voix des Luttes. Pour recommencer le voyage, rendez-vous sur le site de Prune, www.prune.net, rubrique Émission.